Bonsoir, bonsoir. Mesdames, bonsoir, messieurs. Pardonnez-nous ce très léger retard. Bonsoir, Laurence Esnick.
Bonsoir.
Avant de répondre aux questions d'un vieillard, il a répondu aux questions de jeunes gens. Et c'est ce qui explique des élèves du lycée Condorcet qui s'intéressent à Stéphane Zweig. C'est très satisfaisant.
Non oui. Hein, ah oui. Voilà. D'abord, avant oui, tout, parce que oui. je voudrais vous remercier d'être là, par ce froid, et puis si nombreux, et puis à la librairie Mola de m'avoir invité. Merci mille fois. D'être venu et puis d'être là pour cette conférence. Je vous laisse.
Oui. Est-ce qu'on peut, avant de parler du livre, dire un tout petit mot de vous parce que vous avez un itinéraire pas extravagant, ni spécialement singulier. Après, vous êtes médecin au départ, n'est-ce pas? Peut-être ne savez-vous pas que le libraire et le patron de cette mairie qui vous a... De cette mairie, non. pas encore, mais... pas encore. Cette librairie qui vous a accueilli tout à l'heure, et lui-même
oui,
un médecin.
Moi, j'ignorais ça, oui.
Lui-même un médecin qui a changé de voie. C'est un médecin qui avait, à un certain moment, choisi la littérature. Pourquoi ?
J'ai l'impression que c'est l'élite, alors. J'ai l'impression que c'est la littérature qui vous choisit. Ouais. Vous accueillez énormément d'auteurs. Alors c'est assez curieux à expliquer, mais j'ai la sensation que j'étais écrivain avant d'être médecin. Et moi, je me suis toujours vécu comme un écrivain. Je me souviens qu'à 12 ans, je faisais passer mes poèmes dans la classe pour être noté. Et en plus, j'étais mal noté. Et ensuite, si vous voulez, j'ai commencé à écrire. Alors, au début, c'était à 15 ans, des espèces de poèmes un peu enfiévrés. Et puis, ça a été des essais. Et puis très vite, le roman. Mais avant que j'entame ce long parcours médical, qui n'est pas sans rappeler le trajet d'un écrivain dans sa difficulté, dans ce qu'il impose comme rigueur, comme obstination, il me semble que et en parallèle, donc moi pour finir sur moi, à chaque jour de mes études médicales, donc très astreignantes comme on peut l'imaginer, elles ne sont pas les plus astreignantes de toutes les études, mais c'est je recopiais une page, deux pages de Proust ou de Flaubert. Parce que j'avais l'impression de manquer quelque chose en ne faisant pas d'études littéraires. Donc par ailleurs, j'écrivais mes propres romans que j'envoyais par la poste, qui me revenaient par la poste dès la première année de médecine. Et donc je me nourrissais de la même façon que je recopiais mes textes de mes leçons de médecine. Je recopiais des textes de Proust, de Flaubert et de Fitzgerald chaque jour pour essayer de garder de rattraper. Non pas ce temps perdu, mais on viendra. Juste une remarque sur la médecine et la littérature. Ce sont pas tant deux mondes différents que deux langues différentes. C'est-à-dire qu'un écrivain habite une langue. Zweig, on en parlera, c'était l'allemand, c'était la langue de Goethe, bien entendu. Mais un médecin habite une langue qui n'est pas la langue du commun des mortels. C'est une autre langue. Et la difficulté est de passer d'une langue à l'autre, comme on passe d'un monde à l'autre.
Est-ce que c'est une langue ou est-ce que c'est un jargon?
Non, c'est alors pour, en effet, on peut considérer que c'est une langue étrangère lorsqu'on est face au médecin, mais c'est une langue avec ses codes, avec sa grammaire, avec sa précision et qui ressemble et qui nécessite le même travail d'apprentissage que la langue française. Enfin, c'est comme ça que je le vois hein, maintenant. Et donc moi j'ai eu l'impression de non, alors, j'ai pas eu la sensation d'apprendre d'apprendre à être un écrivain. En revanche, la littérature, c'est un travail permanent de chaque aujourd'hui encore. Enfin, je continue à recopier des pages de. Alors maintenant, ça varie. Ce sont des auteurs allemands, des auteurs américains, des auteurs. Mais c'est encore un travail de tous les jours. J'ai l'impression que j'ai pas depuis 20 ans, je continue à apprendre en écrivant.
Et Est-ce que vous avez abandonné la médecine pour y revenir? Il me semble que j'ai...
À un moment, j'ai eu une tentation, parce que j'avais ce rêve d'être journaliste.
Oui.
Donc, quand j'ai débarqué à Paris de ma province niçoise, j'étais chef de clinique des hôpitaux de Paris, enfin assistante des hôpitaux de Paris, donc. Et puis, à la fin, j'ai commencé une carrière journalistique. J'ai eu la chance de faire de très belles rencontres, et puis des gens comme François Nourricier, comme François-Olivier Gisbert, comme d'autres qui étaient surpris par mon parcours et par ma volonté d'explorer un autre monde. Parce que la médecine vous enferme quand même. Elle vous cantonne dans un monde qui est immensément vaste. Et moi, j'avais envie de voir le monde. Et la littérature vous enferme aussi. Donc, j'ai fait ce... Et curieusement, alors l'expérience journalistique m'a mené assez... alors, j'étais rédacteur en chef du Figaro étudiant. Ouais. Après, j'ai eu une émission télévisée sur iTélé. Mais d'ailleurs, avec le recul, alors que ça fait seulement 3 ou 4 ans que j'ai arrêté de... Je l'ai animé pendant 3 ans. J'ai fait des critiques au Point. J'ai l'impression que c'était littéralement un autre moi-même. Je ne sais pas si je serais capable de réanimer une émission de télé. Tellement c'est encore un autre monde. Mais c'était passionnant parce que d'abord j'ai rencontré des auteurs, j'ai rencontré des littératures, j'ai rencontré des écrits et puis des images. Mais finalement c'est un monde à part quand même. Donc, je ne regrette pas d'y avoir consacré quelques années, mais c'est un monde qui est bien loin quand même, et du monde médical et du monde littéraire.
Alors, venons-en au monde littéraire, hein, et venons-en à la littérature plutôt qu'au monde littéraire. Alors, les derniers jours de Stefan Zweig. Je crois que votre intérêt pour Zweig ne date pas d'hier. Hein. Et il me semble que le premier livre que vous avez publié s'appelait
les mauvaises pensées.
Je ne sais pas si c'était les mauvaises habitudes ou les mauvaises pensées.
Les mauvaises pensées.
Il apparaissait déjà Zweig dans ce livre-là.
Oui, c'était
Freud et voilà. Tout ce qu'on retrouve.
Absolument. Non, mais alors c'est tout à fait étonnant parce que. Il n'y avait aucune... Ce premier roman, qui n'était pas mon premier roman, donc qui était peut-être le dixième que j'écrivais, mais qui était le premier roman abouti, parlait d'un jeune garçon qui s'appelait Nathan. Et en effet, alors vous avez raison de le dire, je ne sais pas si on écrit toujours le même roman, et puis celui-là est quand même assez particulier, mais en effet, à la fois, les mêmes obsessions reviennent, la même prégnance du monde d'hier. Puisqu'il se passait littéralement parlant à Vienne pour la majeure partie de ces pages, qu'en effet le héros, alors c'est drôle parce que c'est vraiment, j'avais commencé à côtoyer les grands et sans aucune, c'est assez curieux parce que je fais parler Freud, c'est-à-dire mon héros qui s'appelle Nathan lit dans les pensées, il vit dans un shtetl de la frontière polono-russe. Et un jour, sa mère s'aperçoit qu'il a cette malédiction qui pèse sur lui, qui n'est pas une bénédiction, il sait lire dans les pensées des êtres. Et elle l'envoie très loin, chez un cousin éloigné, dont on dit qu'il a le pouvoir de soigner les âmes folles. Et c'est ce petit bonhomme de 13 ans se retrouve chez Freud. Alors, si j'avais raconté cette histoire à un éditeur sans l'écrire au préalable, je pense qu'il m'aurait dit tu vas passer à autre chose. Et là, c'est vrai que ce qui était assez étonnant, c'est que ce livre n'a pas été un succès de l'imprimerie, mais un succès critique maintenant avec le recul. Et surtout qu'il a été traduit en allemand chez Revolt. Ce qui fait que ce roman-là, qui était un roman qui parlait de l'Allemagne et qui approchait des figures extrêmement déjà, et là peut-être de façon plus proche encore que les derniers jours de Zweig, a été traduit dans plusieurs langues, en russe, en hébreu, pour une histoire qui était à la fois une histoire allemande et puis une histoire juive. Et en effet, il y avait ce côtoiement de Freud. Et moi, je suis littéralement, alors c'est parce que vous me le faites rappeler que j'y repense, mais il y avait dans ce livre-là, d'ailleurs des choses que je n'ai pas retrouvées dans les deux romans suivants, espèce de grâce d'écriture, hein, je parle de la grâce à lire, c'est seul le lecteur qui peut en parler, mais j'avais littéralement l'impression d'être dans la chambre, dans le cabinet de Freud avec mon héros, et d'entendre parler Freud à mon héros. Et qui plus est, alors là, c'est à la fois un roman tragique et un roman drôle, parce que Nathan, c'est un roman d'apprentissage, ce livre, Les Mauvaises Pensées. Et en effet, dans un escalier, dans l'escalier du 19 Bergstrasse, Nathan rencontrait Zweig. Il le croisait. Et pour en revenir à votre. Alors, je parle par très longues phrases, mais j'écris par phrases beaucoup plus courtes, hein, je rassure mes futurs lecteurs. La rencontre avec Zweig, on viendra peut-être. C'est peut-être votre prochaine question.
C'est ma prochaine question. Voilà.
Donc allez-y.
La prochaine question, c'est ça d'ailleurs. Pourquoi Zweig aujourd'hui? Et surtout, pourquoi les derniers jours, hein, qui effectivement ne sont pas la période la plus heureuse, la plus glorieuse de la vie de Stefan Zweig, qui est très glorieux, hein, à l'époque, très très célèbre, peut-être plus qu'on l'imagine aujourd'hui.
Alors, il y a plusieurs questions là.
La
première, c'est pourquoi.
C'est du très mauvais journalisme.
Non, pas du tout. C'est simplement, il faut que je réponde à toutes, c'est ça.
Oui, voilà.
La première question, pourquoi Zweig? Oui. Déjà, pourquoi Zweig aujourd'hui? Oui. C'était la première. En fait, pour moi, c'est pas Zweig aujourd'hui. C'est-à-dire que cette histoire-là a commencé précisément quand j'avais 20 ans, plus d'un quart de siècle maintenant, lorsqu'on m'a offert Le Monde d'hier. Donc cette autobiographie où Zweig ne parle jamais de lui. Et littéralement, alors c'est drôle parce qu'il y a toujours des anecdotes assez avec les écrivains, celle qui m'a offert ça s'appelait Magali Weg, V-E-G-H, c'était juste anecdotique. Et lorsque j'ai reçu ce livre-là, donc moi qui me considérais déjà comme un écrivain sans livre, mais qui écrivait déjà, j'ai l'impression que mon destin d'écrivain en herbe a basculé avec ce livre-là. Chacun a 3, 4, 5 grands chocs littéraires. Les miens étaient très tôt, peut-être trop tôt d'ailleurs, Le Dernier des Justes d'André Schwarzbart, qui est un livre qui a eu le prix Goncourt en 1954 ou 55, qui est pour moi la plus belle histoire sur... On parle beaucoup de la rafle ces temps-ci. C'est une histoire exceptionnelle, Le Dernier des Justes. C'est un roman qui est vraiment un immense roman, peut-être plus grand pour moi que Vie et Destin de Vassili Grossman. Il y a eu Belle du Seigneur, il y a eu 4-5 chocs, mais celui-là, Le Monde d'hier, a changé ma manière de voir l'histoire. Et en même temps a éclairé toute une histoire. Et ensuite, comme je pense tout le monde ici, quand on découvre un Zweig, on les découvre tous. Il y a peu d'auteurs comme ça, il y a peut-être Philippe Roth, il y a quelques auteurs, Camus évidemment, mais quelques auteurs dont on embrasse toute l'œuvre sans pouvoir, avec une espèce d'avidité. Et d'ailleurs, ça continue aujourd'hui, parce que les inédits, on les prend et on continue à les déguster, à les savourer. Mais donc, de ces jours-là de mes 20 ans, il y a eu plus qu'un choc littéraire, c'est-à-dire qu'il y a eu une rencontre qui a résonné avec un auteur et avec le destin d'un auteur. Parce que et donc, à tel point que... lors de ma thèse de médecine, j'ai dédié ma thèse de médecine qui parlait des cancers du poumon à Stefan Zweig, qui n'a rien à voir, comme vous l'avez dit, dès mon premier roman, c'était ce monde-là, et que Zweig était là. Donc la question pourquoi Zweig aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui, et pourquoi Zweig, c'est qu'il y a eu un tel choc, et une telle, et j'en reviens à votre deuxième question, c'est pourquoi ces derniers jours ?
Pourquoi les derniers jours ?
C'est qu'en réalité, alors il y a plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve que c'est une histoire qui est terriblement triste, terriblement émouvante. Et que moi, alors dans mes écrits, mais je pense que la plupart des écrivains préfèrent les heures sombres aux heures de gloire. Ce qui fait peut-être la différence avec les biographes. C'est-à-dire que si je devais écrire l'histoire de Napoléon, moi, ce serait Sainte-Hélène qui m'intéresserait. Ou alors l'enfance. mais ou alors les 100 jours peut-être, mais pas tout ce qu'il y a entre. Et ces derniers jours-là, donc il y a deux raisons. D'abord, donc, c'est une histoire qui est extrêmement émouvante parce qu'on a l'impression qu'on perd un proche. C'est une histoire que j'avais découvert à travers les correspondances, puisque finalement elle n'est que là. Et la deuxième raison, donc c'est une histoire extrêmement triste, extrêmement émouvante, terriblement bouleversante, parce que c'est n'est pas l'histoire de Zweig, c'est l'histoire de Zweig et de Lotte Altmann. Donc j'avais envie de raconter cette histoire en réalité. C'est-à-dire que cette histoire n'avait jamais été racontée. Et en même temps, alors c'est un peu compliqué, je suis un peu long, mais je vous raconte comment ça s'est passé. J'ai pas choisi. C'est-à-dire que j'avais fini ma biographie d'Einstein chez Folio Gallimard. J'étais sur un roman qui se situait aux États-Unis, en Arizona, qui sera peut-être mon prochain roman. Et littéralement, j'ai vu Zweig rentrer dans sa maison de Petropolis. Et j'ai commencé à écrire cette histoire. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est même pas un projet, c'est-à-dire je réponds à la première question, il n'y a pas eu de pourquoi. Parce que je pense que si on a cette ambition-là de se dire, je vais écrire, de la même façon que pour mon premier roman, je vais écrire un roman qui aura pour héros Stefan Zweig, il est impossible de le faire. Parce qu'on est écrasé par la démesure de la tâche, parce qu'on se demande comment est-ce qu'on va être vu, parce qu'on se demande quelle légitimité on a. Donc simplement, un beau matin, je me suis mis à raconter cette histoire. D'ailleurs, je me suis vu en train de raconter cette histoire. Alors, un rapport un peu à la technique du récit enchâssé de Zweig, ce que je vous raconte. Mais en réalité, comme vous l'avez compris, et j'étais un peu long pour l'expliquer, elle remontait à 25 ans en arrière, cette histoire, et elle avait traversé ces années. Parce que, en effet, avec la valoir des mauvaises pensées, j'avais été acheter un livre dédicacé de Stefan Zweig. Et je ne suis pas collectionneur, mais donc j'ai un livre de sa main, dédicacé de sa main. Donc il y a quelque chose qui s'est réellement passé. Et quand j'ai eu 30 ans, donc il y a 15 ans, j'allais chez les bouquinistes acheter des vieux Zweig, pas des éditions originales, mais des Zweig d'avant l'autodafé. Qui était de 1930, de 1931, chez Grasset, chez Stock, toujours. Mais il me semblait, avec cette espèce de... Tous les écrivains ont un peu des ambitions mégalomanes. À cette époque-là, j'avais aucune intention d'écrire sur Zweig, mais j'avais l'impression, dans ma bibliothèque, de reconstituer un peu ce qui avait été brûlé. Donc c'était peut-être une ambition qui était au-delà de la littérature, qui était de faire que ce qui est parti en cendres le 10 mai 1933, dans toutes les places d'Allemagne, lorsqu'on a brûlé tous les livres de Zweig, d'Einstein, de Freud et de Thomas Mann et de Heinrich Heine, pour la plupart parce que c'était des auteurs juifs, mais pas seulement, puisqu'il y avait Thomas Mann et d'autres encore. J'avais l'impression, dans les mettant, il y avait que Zweig, hein, curieusement, dans ma bibliothèque, en leur remettant dans la bibliothèque ces livres qui dataient d'avant. Il y avait alors c'était inconscient, c'était pas forcément très sain d'ailleurs, mais j'ai l'impression de reconstituer un peu le passé. Et cette démarche-là de raconter l'histoire, finalement, j'ai l'impression qu'elle, de raconter ces derniers jours-là, elle fait partie de la même démarche, qui est une démarche plutôt, finalement, humaine que littéraire. C'est devenu une entreprise littéraire. Après que je sois devenu enfin, je sais pas si on devient un écrivain, mais après que j'ai publié des livres.
Alors, on va laisser... Ma question a comporté trois. On va laisser tomber la troisième.
Puisque
vous avez fort bien répondu aux deux premières. On reviendra à la troisième. Oui, alors, parlons de ça. C'est-à-dire que votre livre commence en septembre 41 et finit en février 42. Mais l'exil de Zweig est nettement antérieur. Alors, qu'est-ce qu'il... Parce que les biographes ne sont pas tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui le décide? Vous venez d'évoquer l'autodafé, les livres qu'on brûle, etc. Qu'est-ce qui le décide à quitter l'Allemagne? Et alors, C'est plusieurs questions, une seule, mais elles se tiennent, n'est-ce pas ? Et pourquoi d'abord Londres, puis New York, puis Pétropolis ?
Ouais, alors c'est deux questions, mais la deuxième est très longue. La première nécessite en effet un éclairage. Très tôt, Stefan Zweig a la prémonition du néant et a ce pressentiment que le du vertige et de la barbarie qui va déferler sur l'Allemagne et sur l'Autriche. Pour plusieurs raisons, alors il y a une raison géographique, c'est qu'il vit à Salzbourg, dans la maison du Kapuzinerberg, qui est une espèce d'immense bâtisse où l'empereur François Joseph a joué enfant. Donc c'est quelque chose où tout le monde venait voir Zweig. Je réponds un petit peu aussi à la deuxième. Il a toujours été en exil, Zweig, on y viendra plus tard, mais je réponds à la deuxième. C'est-à-dire qu'il n'habitait pas Vienne, il habitait Salzbourg. Tout à l'heure, on verra que lorsqu'il va en Angleterre, il n'habite pas Londres, il habite Bath, qui est dans la banlieue de Bristol. Lorsqu'il va à New York, il n'habite plus New York, il va à Ossining pour écrire Le Monde d'hier. Et lorsqu'il va au Brésil, il ne va pas à Rio, il va à Petrópolis, qui est à 70 km de Rio. C'est quelqu'un qui est à la fois géographiquement en exil, et pour moi qui est en exil intérieur, comme le sont sans doute tous les écrivains. Mais c'est intéressant de voir que physiquement, lui est en exil, même lorsqu'il est au fait de sa gloire. Je reviens à cet aspect géographique, c'est que de son balcon de la bâtisse du Kapuzinerberg, il voit Berchtesgaden. Alors Berchtesgaden, ça évoque pour beaucoup, c'est le nid d'aigle, hein, c'est là où vivait, où a vécu Hitler. Donc il voit littéralement le nid d'aigle, d'une part. Donc il voit de sa fenêtre, à partir de... en 31, 32, 33 et jusqu'en 34, il voit non seulement la bâtisse de l'homme dont on parle et qui a cette ascension fulgurante, mais il voit aussi déferler depuis Berchtesgaden, depuis Munich, qui est assez proche finalement de l'Autriche, hein, c'est pas seulement finalement, des armées entières d'hommes de main qui viennent en Autriche parce que la première prise d'Hitler, ça doit être l'Autriche, c'est là où il est né, c'est là où il doit revenir, c'est là où il viendra en triomphateur en 1938. Mais donc physiquement, il voit arriver la barbarie. Et la deuxième chose, c'est que l'histoire, c'est le matériau, c'est son matériau intellectuel. Ses biographies, c'est son travail. Donc, à mon sens, à partir à l'aune des tragédies du passé qu'il a si bien exprimées dans ses biographies, il a su augurer des drames à venir. Et cette vision-là, elle est à la fois instinctive, c'est la vision du romancier, et c'est aussi pour moi la vision de l'homme qui a travaillé sur l'histoire, sur Marie-Antoinette, sur Fouché, sur Erasme et sur tant d'autres, et qui comprend avant les autres, mieux que les autres, l'histoire. Et puis il y a aussi le fait que il va être très très tôt désigné comme victime parce que c'est un intellectuel, parce qu'il est juif, et pas parce que c'est un opposant. Et ça, on y reviendra plus tard. Mais donc, pour répondre à votre question, il part parce qu'il est à la frontière, il est à la lisière de tout ce qui se passe, et en réalité il est à la lisière de tout ce qui se passe dans tous les sens du terme, parce qu'il sait que l'ennemi, c'est la culture, c'est le juif, et donc alors qu'il a un rapport au judaïsme qui est très intéressant par ailleurs, parce que contrairement à Einstein, il ne revendique pas du tout son appartenance, il a un rapport très, très ambigu. Il prend cela plutôt comme un fardeau, même s'il a écrit des nouvelles qui sont remarquables et qui sont des légendes juives, comme le bouquiniste Mendel, comme le chandelier enterré. Mais si vous, avant tout, il habite, plutôt que son origine juive, il habite la langue allemande et il habite quelque part l'Empire austro-hongrois et avec cette volonté-là, comme tous les Autrichiens ou comme tous les gens d'une minorité, mais lui il est dans la minorité d'une minorité, de faire mieux que le grand frère. Donc lui se voulait, on le voit en 14-18, s'il devient pacifiste assez rapidement, pendant une certaine période, d'ailleurs il s'engage, il va adopter le fait que la guerre doit être gagnée par l'Allemagne, parce que l'Allemagne a raison et que la culture est allemande et que les armes doivent être victorieuses sur la France. Donc il se sent profondément germaniste, le fait qu'on lui interdise d'être publié en allemand, le fait qu'il ait vu aux actualités le 10 mai 33 ses livres brûlés, va faire que très vite, donc en réalité entre 33 et 34, donc en 34, il demande à sa première épouse de liquider le Kapuzinerberg, et qu'il va fuir, qu'il va partir, mais que c'est un peu une fuite également. C'est-à-dire que c'est à la fois un exil et une fuite.
Alors, il fuit, voilà, on s'exile, d'abord vers Londres, voilà. Vers Bath, oui. Exactement. Et il travaille à une biographie de Mary Stuart à ce moment-là, donc c'est peut-être pas par hasard qu'il va en Angleterre. Pourquoi n'y reste-t-il pas ?
Alors, ce que je crois comprendre de Zweig, c'est que j'inverserai je suis désolé parfois de vous, mais... je pense qu'il écrit une biographie de Mary Stuart parce qu'il est à Londres.
Ah, parce qu'il est à Londres.
Parce qu'il va écrire, le Brésil, terre d'avenir, parce qu'il pense aller au Brésil, qu'il y a cette sorte d'ambiguïté là, et qu'on lui reprochait beaucoup, parce qu'à la fois, vous avez raison de dire que c'est un immense écrivain éminemment reconnu à l'époque. En même temps, par ses pairs, il est assez mésestimé. Moi, j'étais surpris dans les correspondances et dans les archives et de voir combien est Thomas Mann et Joseph Roth, qui l'a pourtant considérablement aidé à accoucher de son œuvre phare, et Ernst Weiss et d'autres encore nombreux, considéraient Zweig comme un écrivain mineur. Et ça, c'est autant une découverte que le fait qu'il ait vendu 60 millions de livres, qu'il ait été traduit de par le monde. Et c'est ce qui est très intéressant avec lui d'ailleurs, c'est que c'est sans doute parce qu'il n'était pas de son temps à l'époque, parce qu'il n'avait pas, comme Thomas Mann ou comme Brock ou comme Musil, d'hommes sans qualité ou de montagnes magiques à son effectif, qu'il est d'une si grande modernité aujourd'hui. Parce qu'il faut relire Thomas Mann, il faut relire Brock et Musil, mais ils sont beaucoup plus difficiles d'accès. Il est moderne aujourd'hui et il restera moderne parce qu'il n'était pas de son temps. Et j'en reviens à cela, c'est-à-dire que on le traite de dilettante, on le traite même de plagiaire, on le traite d'écrivain mineur. Il faut voir comment Thomas Mann, notamment, qui est vraiment la stature de l'écrivain allemand, prix Nobel, modèle pour tous, qui avait quand même... D'abord, qui a écrit à la mort de Zweig une lettre qui évidemment n'est pas dans les derniers jours, mais abjecte, un peu comme Bernanos sur un autre plan. Mais Thomas Mann a dit si Zweig s'est suicidé, c'est sans doute qu'il y a une question sexuelle là-dessous, quand même assez étonnant. Mais Thomas Mann avait, lorsque son fils Klaus Mann s'est suicidé, a eu des propos encore bien pires. Tout ça pour dire que d'une part, Zweig n'était pas estimé à sa juste valeur. De son temps, mais que, et ça fait partie aussi de son exil intérieur autant qu'extérieur, il avait intériorisé, lorsqu'on lit ses correspondances, il avait intériorisé totalement ses critiques. Et que lui-même, et c'est ça qui fait de lui d'ailleurs, un anti-héros, mais donc éminemment romanesque, c'est qu'il a totalement intériorisé ses critiques et que lui-même s'estimait en écrivain raté. Et, ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui le faisait continuer, c'est ce qui lui donnait cette force d'écrire, parce que donc il est en exil, et vous l'avez dit, en 1934, il écrit son Mary Stuart, mais un écrivain en exil n'accomplit pas cette œuvre gigantesque qu'il va accomplir de 1934 jusqu'en 1941, parce qu'il a écrit énormément de livres en exil, avec, et là peut-être... Je reviendrai à votre question dont j'ai oublié le numéro. Mais à Londres, il est considéré. Peut-être qu'on en mais je vous laisse poursuivre.
Soyons désordonnés. Soyons désordonnés. Parce que là, vous avez touché à des thèmes qui m'a beaucoup intéressé dans le livre et qui m'a aussi surpris d'ailleurs, parce que vous mettez beaucoup l'accent sur cette espèce de sentiment d'insuffisance qu'il a vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son œuvre. Il se dit qu'il n'est capable que d'écrire des textes courts, des nouvelles. Il dit jamais, évidemment, je ne pourrais faire la montagne magique ou l'homme sans qualité, ou je sais pas, les exemples que vous avez pris. Et on a l'impression qu'en effet, il se sous-estime énormément en tant qu'écrivain, alors que sa notoriété est considérable, que c'est un des écrivains européens les plus lus en Europe, n'est-ce pas ? Alors ceci, vous le tirez, et de la correspondance.
Oui, de ses écrits. De ses écrits et des témoignages, mais surtout de ses écrits, c'est tout à fait... dans l'œuvre de Zweig, ce qu'il faut lire aussi, alors ce sont ses correspondances. C'était il avait une correspondance à l'image de son maître qui était Balzac, qui est gigantesque. Il écrivait 2, 3, 4, 5 lettres par jour à Toscanini, à Franz Werfel, à Alma Mahler, et puis avant à Schnitzler, et puis évidemment à Freud. À travers cela, il a tellement écrit qu'on arrive peut-être à en avoir une vision un peu différente de celle qui transparaît à la fois aujourd'hui, à travers le prisme de son succès, et de son succès qui se pérennise et qui est atemporel. On a cette image-là, moi c'est, alors après c'est une interprétation aussi, mais véritablement d'un homme extrêmement fragile, extrêmement sombre, alors... qui plus est, malheureusement, mais les faits donnent raison à cette interprétation, parce que si ça avait été... Parce que Thomas Mann ne s'est pas suicidé. Parce que s'il n'avait pas été dans le doute absolu, il n'aurait pas mis fin à ses jours. Je crois qu'il y a une espèce de non pas de validation, mais c'est vraiment quelqu'un qui sombre dans le désespoir, et dans ce désespoir-là, alors, peut-être un peu clinique, mais il y a évidemment le doute, et de tout, quoi qu'il en soit, tout écrivain est habité par ce doute-là. C'est ce qui permet à un écrivain de continuer à écrire, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à écrire un prochain livre. Si, et je pense que lui est la quintessence de l'écrivain. Et aussi, c'est pas forcément le plus grand écrivain du siècle, et loin de là, c'est certainement pas le plus grand écrivain du siècle. Mais c'est pour moi celui qui a une sorte d'intelligence absolue. Et notamment, je continue les digressions, mais avec Le Joueur d'échecs, qu'il écrit, qui est sa dernière œuvre, il arrive, quand je dis que c'est pour moi l'intelligence absolue, il arrive à commettre cet exploit littéraire par une métaphore littéraire d'expliquer comment on ne parvient pas à écrire. Parce que Le Joueur d'échecs, donc quelqu'un qui devient fou à force de jouer aux échecs, enfin je résume mal, c'est la période où lui pense qu'il ne pourra plus écrire, est au bord du suicide, est au bord du désespoir. Et en ce sens-là, c'est vraiment pour moi la quintessence à la fois de l'écrivain et l'intelligence absolue, il réussit à traduire le fait de ne pas écrire en écrivant ce qui est sans doute sa plus belle nouvelle. Et c'est assez hallucinant, et à mon sens, pour retrouver Stefan Zweig, il faut avant tout lire Le Joueur d'échecs, parce qu'il n'a jamais été autant dans une de ses nouvelles. On le retrouve peut-être aussi dans Marie-Antoinette, curieusement, dans Marie Stuart, on le trouve beaucoup, mais il est tout entier, en tout cas dans cette période, cette dernière période et ces derniers mois, dans ce joueur, dans Le Joueur d'échecs. Même si dans Lettre d'une inconnue, c'est aussi totalement lui. C'est-à-dire que, et après j'arrête avec la digression, mais ce qui est étonnant avec Zweig, en fait, c'est ça, c'est que quel que soit le bout par lequel on le prend, c'est un peu, Einstein, c'était un peu pareil, viennent tout un roman et toute une histoire. Donc c'est vrai qu'on pourrait parler de, moi je ne ferai pas ça parce que vous rentrez chez vous une fois que la nuit sera tombée, mais il a, dans Lettre d'une inconnue, où à mon sens il atteint le plus haut niveau de sa technique du littéraire, narrative, du récit enchâssé, quand on sait que il a eu une première maîtresse avant enfin, c'était pas sa première maîtresse, mais sa maîtresse qui a compté, était une maîtresse parisienne qui s'appelait Marcel, qui était à Paris, qui vivait à Paris. C'était évidemment un immense francophile. et que cette Marcelle-là, il la rencontre, il rencontre sa première femme Frédéric, et qu'il fait avorter Marcelle. Il faut lire le Lettre d'une inconnue à la lumière de cet épisode-là, qui a lieu des années plus tôt. Parce que c'est vraiment troublant comment, alors qu'il ne parle jamais de lui dans son autobiographie, comment il arrive à parler de lui dans Lettre d'une inconnue. C'est vraiment tout à fait édifiant.
Est-ce que c'est pas troublant aussi que, au moment où cet homme est particulièrement abattu, enfin bon, vous le montrez dans un état perpétuellement dépressif, au moment où cet homme est particulièrement abattu, au moment où il a des doutes sur l'ampleur de son talent comparé à celui d'un Thomas Mann ou d'un Roth. Et est-ce que ce n'est pas curieux qu'il se lance dans une biographie de Balzac, c'est-à-dire de la puissance créatrice, n'est-ce pas, la plus totale, et lui qui ne sait écrire que des petites nouvelles, devient le biographe de celui qui a créé une comédie humaine.
À la fois, il y a deux choses, c'est que, et pas seulement, j'ajouterais, parce qu'il se lance aussi, alors un peu avant ces six derniers mois, qui aussi embrasse toutes ces années d'exil, il se lance dans Marie Stuart, vous l'avez dit, puis il se lance surtout dans le monde d'hier.
Oui.
C'est-à-dire qu'en 1940, et d'ailleurs je réponds à votre première question aussi, qui était pourquoi ce livre, en parlant du monde d'hier. Le monde d'hier, il l'écrit en 1939-1940, à New York, et près de New York, et à Ossining. Alors, il y a énormément de choses à dire sur l'écriture même, parce que l'écriture même de ce livre est une aventure, qui témoigne aussi du romanesque de cette histoire. Vous l'avez dit, il part à Londres en 1934. Sa première femme, Frédéric, qu'il a toujours ramené à la lumière, qu'il a toujours ramené à la vie, qui est extrêmement solide, qui est une combattante, qui est l'inverse de lui, lui présente une série de secrétaires pour remplacer Erika Meingast, qui était sa secrétaire à Vienne, et qui sera chargée de rédiger ses livres, dont le Marie Stuart. Et elle lui présente Lotte Altmann, qui est une jeune femme de 25 ans, qui vient de Katowice, qui elle aussi est partie à temps, dont la destinée est encore plus tragique que celle de Zweig et m'a ému encore plus que celle de... Et autant l'histoire d'ailleurs de ce livre.
Plus. Je crois que c'est plus l'histoire de Lotte que l'histoire de Zweig. On sent que c'est vraiment elle qui vous intéresse le plus, quoi.
Pour quelle raison? C'est que, en quelque sorte, pour moi, la fin de Zweig était inscrite bien avant la guerre. On en viendra peut-être après à ce livre que vous pouvez lire de son essai sur Kleist, où il décrit la mort de Kleist, cette mort qui est sordide. Donc Kleist, donc cet immense poète allemand, qui choisit sa deuxième femme pour mourir, et qui, au bord d'un lac, lui tire une balle dans la tête et se tire une balle dans la tête. Et en écrivant cet essai sur Kleist, en même temps évidemment, il est tout à fait passionnant, mais ce qui est tout à fait troublant...
Qui est très, très, pardon de vous couper, mais qui est très antérieur.
Ah, 1925. Oui, tout à fait, 1925. Donc, si vous voulez, en écrivant cet essai sur Kleist, et en parlant de sa mort... Et c'est pour ça que je dis qu'en réalité, son désespoir était bien antérieur, même à la guerre, même s'il a eu d'autres raisons d'être désespéré, qu'elles étaient sans doute au moins aussi grandes. Mais il juge cette mort sublime. Et c'est tout à fait troublant, lorsqu'on reprend le texte sur Kleist, de voir qu'il dit, et ce sont ses mots, la mort de Kleist est son chef-d'œuvre absolu. Lorsqu'on voit avec quelle méticulosité et quelle horreur Kleist a organisé sa mort et celle de sa deuxième femme qui était malade, comme Lotte est malade d'un asthme, l'écrivain, le romancier là, peut se dire qu'il y avait cette fascination Parce qu'il dit donc cette mort est sublime, hein, et cette mort pour moi est monstrueuse, et pour tout le monde est monstrueuse. Il y avait cette fascination qui d'ailleurs, qu'on retrouve d'ailleurs dans la fin de tous les héros de Zweig, c'est-à-dire de Amok, de 24 heures de la vie d'une femme, de tous ces héros finissent fous ou finissent par se suicider, tous ou presque, ou en fuite, mais pas loin de cela. Et donc, en effet, c'est cette compagne-là, cette jeune femme-là, dont finalement les biographes ont assez peu parlé, alors qu'il y a quand même des témoignages. C'est le mystère de la mort de cette femme-là qui m'a beaucoup plus ému encore, même si la mort de Zweig reste bouleversante, parce qu'elle n'était forcée de rien, parce qu'elle n'a pas choisi quelque part, parce qu'elle a scellé son destin en mars 1934, en rencontrant ce qui était alors un immense écrivain en faute de sa gloire, même en début d'exil, et qu'en tombant amoureuse de cet homme-là, elle a réellement scellé son destin et signé la fin de ses jours, alors qu'elle aurait pu, comme sa nièce Eva, ou comme son frère Manfred, elle avait déjà fui, elle s'était déjà sauvée, elle était saine et sauve. Et en effet, cette jeune femme-là, éperdument amoureuse, et en même temps qu'on nommait la femme silencieuse, et en même temps qui a vécu, et là j'en reviens justement à l'écriture du monde d'hier à Ossining, près de New York, elle a vécu une sorte de ménage à trois. C'est-à-dire qu'il y a aussi un côté vaudevillesque. Frédéric, sa première femme, lui présente Lotte Altmann. J'espère que c'est pas trop décousu.
Ça va, non.
Frédéric, c'est vrai que ça tourbillonne, en fait, la vie de Zweig. Frédéric, sa première femme, lui présente Lotte Altmann. Ils vont à Nice, au Westminster. Il y a la Toscanini. Roth va les rejoindre. Et un jour que Frédéric von Wiedernitz, sa première femme, qui l'a fait, hein, qui l'a construit, parce qu'en effet, derrière chaque écrivain, c'est un peu une banalité, mais il y a quand même une femme qui est là, en tout cas pour lui, c'était le cas, elle va à Nice chercher des visas, parce que ce sont des gens à la Modiano, hein, ce sont des en 34, ils sont en exil déjà, et lorsqu'elle revient, Frédéric, elle voit, alors ça ça n'a rien de tragique, c'est plutôt commun, c'est assez grotesque, mais en ouvrant la porte de la chambre de l'hôtel Westminster, elle trouve son mari au bras de la jeune Lotte. Et elle ne va pas longtemps supporter ça, alors qu'elle avait subi bien des outrages auparavant, c'est-à-dire que ça avait toujours été une femme trompée, pour la simple raison que Zweig était à la fois un grand séducteur et quelqu'un qui était surpris de son pouvoir de séduction. Donc, ce sont sans doute les pires séducteurs. Il était émerveillé de pouvoir séduire, et donc à chaque fois ravi. Donc, elle a été trompée, elle ne voulait rien savoir, mais pour Lotte Altmann, elle avait vu. Et puis, quelque chose était en train de se tramer, qui lui semblait plus sérieux avec Lotte Altmann qu'avec les autres femmes. Et qui plus est, je pense qu'elle en avait peut-être assez de ramener le grand écrivain à la lumière. Et cette jeune femme-là, Lotte Altmann, va subir cet exil avec Zweig et va retrouver Frédéric à New York, des années plus tard, après que Frédéric ait eu beaucoup de difficultés, des difficultés terribles, pour sortir de cette souricière qui était devenue l'Europe, elle et ses deux filles. Ils ont dû passer par Marseille, puis par le Portugal. Et Zweig a cru à un moment qu'ils ne pourraient pas, d'ailleurs, quitter l'Europe et qu'ils allaient subir le sort des leurs. Eh bien, elle va les retrouver à New York et elle va devoir subir ce qui était quelque chose d'assez terrible. Il faut imaginer ça. Il a besoin de sa mémoire, Zweig. Et sa mémoire vivante, sa mémoire de la splendeur du passé, c'est Frédéric, c'est sa première femme. Et donc, pour l'écriture du monde d'hier, il va déménager de New York, il va aller à Ossining, et il va chaque jour quitter son hôtel pour aller chez son ex-femme et parler pendant la journée avec son ex-femme et revenir pour le lendemain dicter à sa seconde femme l'histoire de son passé, qu'il a vécu avec sa première. Donc en effet, moi, ce simple épisode-là, qui en soi pourrait constituer un film ou un roman, témoigne de la douleur de cette jeune femme, parce que c'est quand même extrêmement... C'est terrible pour n'importe qui. Et c'est quelque part assez inhumain, même de la part de Zweig. Elle a tout subi. Et en même temps, elle est en train de dactylographier sur sa Remington un espèce de bijou qui sera le monde d'hier. Donc il y a cette espèce de merveille en train de se construire qui se noue à trois. Ça fait partie des derniers jours. Et pour revenir à pourquoi les derniers jours, c'est que le monde d'hier s'arrête en 1940. Lorsque vous relisez, moi je vous encourage à le relire. Il s'arrête en 1940 lorsque l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. Et après, Zweig n'a plus rien écrit sur lui. Il lui reste un an à vivre. Cette année-là, pour moi, c'est l'année de l'exil absolu. C'est-à-dire qu'il fuit même New York, il fuit même l'Amérique du Nord. C'est l'année de la pauvreté, c'est l'année où il va apprendre le bannissement des siens, c'est l'année où il va apprendre... petit à petit, même si ça devient progressif, et si 41 sera l'apogée de cela, ce qu'il advient des siens, ce qu'il advient du monde d'hier, ce qu'il advient des Juifs de Vienne, et de ceux d'Allemagne, et de ceux de Pologne. Et même si ça lui arrive par petites vagues, c'est quelque chose qui va accroître, qui va le plonger dans un désespoir absolu, parce que ce sont les siens, et puis c'est son monde qui s'effondre. Le monde qu'il incarne et le monde qu'il exprime. Et... il n'a plus rien écrit après, et en quelque sorte, encore une fois, il n'y a pas eu de projet de ce livre, mais quelque part, inconsciemment, j'ai eu l'impression d'écrire le livre qu'il n'avait pas écrit. Alors ça peut paraître, il faut être de toute façon un peu mégalomane, où on l'est lorsqu'on touche à l'écriture, mais j'avais l'impression, quelque part, alors sans doute en hommage de tout ce qu'il m'avait apporté, de poursuivre non pas cette œuvre-là, mais de raconter cet épisode de cette vie sous la forme d'un roman, en quelque sorte d'une longue nouvelle, et de continuer à raconter cette histoire-là, qui était seulement dans ses correspondances. Et qu'en effet, il a eu la pudeur, parce que beaucoup d'écrivains auraient raconté cet exil-là, il avait la pudeur où il n'avait pas la force d'écrire. Donc m'appuyant en effet sur les correspondances qui sont des pavés et puis moi j'écris même, enfin pour mes précédents romans, je me sers de fiches. Là en quelque sorte, les correspondances étaient ces fiches.
Est-ce que quand vous écrivez, parlant de Zweig, il n'avait jamais cherché à cerner totalement son sujet, à tracer des frontières définitives. Il n'était pas géologue, il ne cherchait que le fragmentaire, il se voyait comme un impressionniste. À quoi bon un certificat d'authenticité ? Par-dessus tout, lui importait l'émotion que dégageaient ses personnages. Il savait qu'on ne pouvait réduire un homme à ce que l'on connaissait de son existence. Il fallait, au gré des affinités avec son sujet, entrer en communion, viser l'ombre plutôt que la vérité révélée. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu faire ?
Alors, ça vient de ses textes à lui.
Oui.
Et ça vient de son rapport à la biographie. Et curieusement, alors il y a une espèce de mimétisme pour tout biographe là, pas forcément pour un romancier, mais pour tout biographe, il y a un mimétisme qui se. Quand j'étais avec Einstein, j'avais l'impression de vivre avec lui, c'est-à-dire que je connaissais plus de la vie d'Einstein que je n'en connaissais de mes proches. Là, pour Zweig, en effet, je sais ce qu'on lui a, les cadeaux d'anniversaire qu'il a reçus le jour de ses 60 ans et le jour de ses 50 ans et le nom de son chien, du chien qu'on lui a offert. En effet, c'est construit. Aussi de cette manière-là, ce rapport à Zweig. C'est-à-dire, le mimétisme était tel, alors ça fait partie de la magie de l'écriture, qu'en effet, alors il y a un critique, j'étais très fier, et en même temps, il n'y avait pas d'intention là-dessus, mais qui a écrit que j'avais écrit un roman sur Zweig à la manière de Zweig. Mmh. Mais quelque part, il n'y avait pas du tout, moi j'étais pas ni dans le pastiche, ni dans la volonté de c'est mon rapport à l'écriture, si peut-être ce roman existe, c'est qu'il y a des résonances avec lui, avec Zweig. Et que, il y a peut-être un même rapport à l'écriture, c'est vrai que ma biographie d'Einstein, donc qui date d'il y a trois ans, est aussi une biographie très romancée où le jeu d'Einstein est très prégnant, où c'est dans l'esprit d'Einstein que j'ai essayé de me mettre. Donc, il y a en effet ce rapport au personnage qui est un peu commun. Alors j'ai du mal à dire ça, parce que c'est très présomptueux de dire ça, mais j'ai réalisé ça au fil de l'écriture, en voyant comment il écrivait, comment il, son propre rapport à ses biographies, en effet, en ayant fini le livre, que j'avais peut-être écrit à sa, avec ce même rapport, et non pas à sa manière.
Je voudrais que vous reveniez une seconde au personnage de Lotte, parce que pour Stefan Zweig, vous avez en effet utilisé la correspondance, les ouvrages romanesques, les biographies, enfin tout ce qu'il a lui-même écrit. Elle n'a pas écrit. Bon, il y a des témoignages, certainement, n'est-ce pas? Mais on a l'impression, en lisant le livre, que là où le romancier, ça s'appelle roman, là où le romancier intervient vraiment, c'est dans, d'une part dans l'importance qu'il accorde au personnage de l'épouse, la seconde, mais la seconde qui n'est pas très contente de la place que continue à tenir la première.
Il y a des raisons.
De la seconde épouse. Et là, il y a même dans le livre un changement de style. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un lyrisme quand il s'agit de Lotte qui existe moins quand il s'agit de Stefan Zweig. On a vraiment l'impression que là, le romancier, c'était pris, d'une certaine manière, de ce personnage. Et puis alors, bon, alors j'ai une seconde question sur le personnage, mais
alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais juste, parce que ce qui importe aussi, c'est le style. Et en effet, vous parlez de style, et je vais... il est très annoté, je suis ravi. C'est vrai qu'en effet, alors, il y a deux choses. On a des traces d'elle. Et je crois qu'à partir de ces traces, qui sont... qui sont des témoignages, notamment de Frédéric. Curieusement, c'est la première femme de Zweig qui a écrit le plus grand nombre de témoignages sur sa deuxième. Et puis aussi, alors là, c'est le romancier qui peut parler, c'est qu'à travers les non-dits de Stefan Zweig, à travers le fait que, par exemple, dans son journal, il n'ait pas fait mention une seule fois de Lotte, et il n'en ait fait mention que par son initiale, L, qui permet de comprendre bien les choses sans avoir une agrégation de psychologie. Je ne sais pas s'il y a une agrégation de psychologie, mais en tout cas. Il met, la date, j'espère que la date est bonne, 5 mars 1940, mariage avec L, point, retour à la maison et écriture. Ça en dit quand même beaucoup sur la passion d'un homme ou l'absence de passion d'un homme. Et en effet, c'est un amour qui est un peu à sens unique, ou du moins qui n'est l'amour qu'elle lui porte l'amour qu'il lui porte n'est pas à la mesure de ce qu'elle sans doute de ce qu'elle attend. Donc après ce personnage-là, j'essaie de trouver des j'essaie d'illustrer votre propos parce qu'en effet en effet, dans ce que vous dites, il y avait une contingence pour moi. C'était quand j'étais dans... Je ne faisais jamais parler de Zweig parce qu'il y avait une indécence à lui faire ouvrir la bouche, lui faire ouvrir les lèvres. Donc, il y avait ce qui s'appelle la technique de la narration omnisciente. Et en effet, j'étais un peu... Enfin, par-dessus son épaule. Lorsqu'il arrive à Pétropolis, je vous lis juste un passage pour illustrer ce que vous dites. Et je vais le réaliser en même temps que je le lis, peut-être. Il tourna la clé dans la serrure. Du bagage ouvert émana une sorte de clarté pure. Le jour se levait une seconde fois sur ce coin du Brésil. Son esprit, depuis longtemps engourdi dans un sommeil sans rêve, fut submergé par une calme exaltation, en même temps que son cœur se mit à battre d'un puissant écho. Son cœur battait à nouveau. Il ressentit une présence derrière lui, crut percevoir un souffle. Il se retourna, convaincu que Lotte était là, observant la scène, moment de paix dans la tourmente, sereine, immobile, sachant partager la sonalité de l'instant, de la même manière calme et en rien fataliste qu'elle avait consenti aux jours et aux semaines d'un infini effroi, la fuite, mouvement perpétuel, attente incertaine des visas, fils interminables d'êtres au visage éploré et aux suppliques vaines, il n'y a plus d'asile sacré, plus d'endroit fixe où habiter, la vie est désormais le lieu d'une éternelle errance, l'immémorial exode, il la contempla, et devant la grâce qu'exhalait ce visage, il se demanda de quel droit il s'autorisait à laisser ternir l'éclat de son regard, à faire de cette jeunesse une beauté de perdition. Le voyage ne prendrait jamais fin.
Je crois que c'est un passage que j'ai souligné.
Oui, non, mais vous avez souligné le. Et c'est vrai que moi, j'avais l'impression de le voir. Je crois que le plus important, en effet, pour un auteur, c'est pour ça que je me permets de le lire, c'est que c'est le style avant tout, indépendamment de l'histoire. Après, le style est bon ou mauvais, mais je cherche juste un mot de Lot, et c'est vrai que vous avez raison. Alors c'est totalement inconscient, mais quand curieusement, on est au bout d'un certain temps, et très très rapidement pour ce livre, on est dans la peau de ces personnages. Et je crois que quand on est dans la peau de ces personnages, on écrit avec leur manière d'être, avec leur on écrit avec un peu de leur sang dans ses propres veines. Je crois que vous avez raison, et alors je cherche juste un passage. Si vous avez une question pendant ce temps-là.
Oui.
Note vos questions et je cherche un passage qui traduirait exactement cela.
J'ai une question. Vous avez dit elle est calme et fataliste. Vous avez dit qu'elle était sans doute beaucoup plus amoureuse de Zweig que lui d'elle. Ce double suicide. On a l'impression qu'il y est plus déterminé qu'elle. Jusqu'à quel point ne fait-il pas pression, parce que c'est quand même un drôle de personnage. Jusqu'à quel point ne fait-il pas pression un peu sur le bandeau dit nous avons choisi, nous avons choisi, c'est lui qui a choisi.
Alors en effet, l'amour
de ne pas nous quitter. C'est lui.
Absolument. En réalité, ce livre tente non pas d'expliquer, mais de lever un peu le voile sur ce geste. C'est évidemment lui qui décide. Et cette lettre là, c'est très curieux parce que ça fait partie d'une lettre qu'il envoie à son frère, au frère de Lot. Et il écrit, en effet, « Nous avons décidé, unis dans l'amour, de ne pas nous quitter. » Alors, il y a une vraie tragédie en même temps dans ce geste-là, c'est que il passe, donc le livre traverse 6 mois de leur existence, mais il passe leurs derniers jours, une semaine avant qu'ils décident de cela, avec le plus grand des bonheurs. C'est-à-dire qu'ils sont au carnaval de Rio. Et là, ils vivent un moment d'exaltation qu'ils n'ont jamais connu auparavant, dans la liesse du Carnaval de Rio. Carnaval de Rio qui, c'est assez intéressant, a été filmé, ce carnaval-là a été filmé, donc on a des images du Carnaval de Rio qu'a vu Zweig et par Orson Welles. Le nom, je commence à être fatigué parce que le nom m'échappait. Qui était le premier film raté d'Orson Welles, enfin le premier film catastrophe d'Orson Welles. Ça, c'est intéressant. It's All True. Orson Welles avait été convié par Hollywood à aller filmer le Brésil en cette période où le Brésil était encore hésitant sur le fait de basculer dans les puissances de l'Axe ou de basculer vers Roosevelt. Et Orson Welles, allant filmer le Brésil pour en faire un film de propagande, va filmer ce carnaval de Rio là. Donc moi, j'ai vu le film parce que je me suis dit peut-être qu'on verra. Non mais on devient un peu fou quand on écrit. En tout cas, j'ai vu. C'était intéressant parce que je décris ce carnaval là et il y a la musique. Et vous savez, chaque carnaval a une musique, donc il y a en effet un souci de précision biographique là aussi. C'est-à-dire qu'il y a la musique de ce carnaval-là, il y a le thème de ce carnaval-là. Et il a tourné ce carnaval-là, simplement Orson Welles, après avoir tourné ce carnaval-là, est allé filmer dans les favelas, et ce qu'il a vu est devenu un film contre le président Vargas. Donc c'est intéressant, qui n'est jamais sorti, qui était son premier film maudit. Mais donc ils vivent cet instant de bonheur et de joie, le soir du carnaval de Rio, le 20 février, ils vont même danser au Teatro Municipo où Reventura joue. C'est quand même assez incroyable. C'est pour ça que l'histoire est... Ça a été une aventure d'écrire cette histoire, parce qu'il y a des découvertes permanentes. Reventura qui était évidemment en exil au Brésil. Ils connaissent un moment de bonheur absolu. Et ça, les témoignages l'attestent. parce qu'il n'est pas seul, il est avec son éditeur brésilien, il est avec De Souza, son hôte. Et au lendemain matin, après avoir vécu cette folie enfiévrée du carnaval de Rio, eh bien, il découvre que Singapour est tombé. Et la chute de Singapour, alors maintenant on l'a un peu oublié, la chute de Singapour à l'époque, ça signifiait la fin du monde. Ça signifiait que les Japonais avaient la route du pétrole qui leur était toute tracée, toute ouverte. Et cela voulait dire que la jonction allait se faire avec, entre les Japonais et puis les Allemands qui finissaient l'opération Barbarossa, qui étaient en plein dans l'opération Barbarossa. Et c'était la fin du monde. Et il voit le matin, au matin de cette nuit d'exaltation avec son épouse, cette nuit de bonheur qui est sans doute la seule qu'ils aient vécue pendant ces 6 mois, il voit dans la presse « Singapour est tombé ». Il décide de rentrer, de quitter Rio. Il y avait le Mardi Gras qui approchait, c'était un dimanche, lundi matin. Il décide de rentrer et là, il décide vraiment de mettre un terme à leur jour. Et lui, il décide. Et donc, c'est une... En effet, évidemment que c'est lui qui décide parce qu'elle n'est pas si attachée à l'histoire que lui. Singapour, ça représente quelque chose pour une jeune femme de 30 ans, mais sans doute pas. Évidemment pas ce que ça représente pour lui. Donc on a l'impression qu'il veut mettre en adéquation le monde qui s'effondre avec sa propre vie qu'il va faire disparaître. Il veut que ces deux mondes-là, celui qu'il a incarné et celui qu'il est en train de vivre, il choisit pour ces deux mondes-là la même destinée.
Je voudrais. Ah voilà. Vous avez trouvé le passage.
J'ai trouvé un passage. Je ne serai pas trop long. Hein. C'est pas du tout l'heure qu'il est. Ça va. Très très bien. Heureuse n'était pas un mot de son vocabulaire. Du bonheur, son adolescence avait retenu l'impression de quelque chose de confus, et je parle de Lotte, et hors de portée. Elle ne ressemblait pas aux autres filles. Elle en avait le sentiment depuis son plus jeune âge. Elle avait la sensation que les autres étaient plus jolies, plus vives, plus éclatantes. Elle demeurait dans l'ombre. Aujourd'hui, c'était plus facile. On l'a complimentée, on l'a jalousée, l'ombre de Stefan Zweig. Elle ne porterait jamais cette robe. Son corps lui avait toujours été étranger. Son corps était une terre stérile. D'où provenaient donc ces désespoirs dont les accès la laissaient comme inerte? Elle avait vécu une enfance heureuse et sans tourment. Son père la chérissait, son frère l'aimait, sa mère l'adorait. On lui avait offert tout le nécessaire, elle n'avait rien conservé. Du territoire irréel, des chimères enfantines, n'émergeait qu'un sentiment de peine et de détresse. Elle éprouvait depuis toujours le sentiment de la défaite. Sa maladie respiratoire, son asthme, lui convenait parfaitement. Elle n'aurait pas pu trouver mieux adapté. Elle avait toujours manqué d'air. Quel que fût l'endroit où elle se trouvait, réunion de famille, collège, elle voyait vivre ses proches, elle écoutait rire ses amis, elle regardait passer les jours. Elle pénétrait dans une pièce, rien ne se produisait. Elle ignorait tout du bonheur, elle connaissait la peur, toutes les peurs. La peur de l'inconnu, la peur du lendemain, la peur de mal faire, celle d'échouer et celle de réussir. La peur panique et la peur bleue, la peur des autres, la peur de soi. Un rien lui faisait peur. La vie avait toujours constitué une épreuve qu'elle surmontait de plus en plus définitivement. Elle parcourait ses années de détresse, elle chancelait sous l'emprise du malheur. Sans doute, dans la vision noire que son mari portait sur le monde, avait-elle trouvé une patrie d'adoption. C'est vrai que c'est pas tout à fait pareil.
Je voudrais vous poser une dernière question et puis après on va donner la parole au public. Et quand même il y a quelque chose que je peux pas, sur quoi on peut pas zapper. Il y a beaucoup de monde exilé au Brésil à ce moment-là. Il y a même un professeur de la faculté de Bordeaux qui s'appelle Fortuna Strowski qui s'est usé les yeux à déchiffrer le manuscrit des essais dans l'édition dite de Bordeaux. Hein. Et c'est un moment où Zweig s'intéresse à Montaigne et vous faites un rapprochement entre Montaigne et Zweig. Mais alors, parmi les personnes qui sont au Brésil. À ce moment-là, j'ai téléphoné à mon frère tout à l'heure. Je lui ai dit, j'interroge l'auteur des derniers jours de Stefan Zweig. Il n'a pas lu votre livre, mais il ne tardera pas. Il m'a dit, j'espère qu'il parle de la rencontre avec Bernanos. Je lui ai dit, bien sûr, il parle de la rencontre avec Bernanos. Alors, il rencontre Bernanos. Ça, c'est pas un épisode insignifiant dans le livre.
C'est réussi?
Oui, c'est réussi, c'est tout à fait réussi.
Non, mais je vous le demande parce que je pose la question parce que c'est en effet, c'est quelque chose que j'ai écrit après. C'est-à-dire que cette rencontre-là, que j'ai écrite quand j'ai terminé, parce que je fais parler Bernanos, et que faire parler Bernanos dans un livre, ça pouvait tomber dans le grotesque. Et parce que cette rencontre-là, en effet, alors votre frère est un fin lettré, ce dont je peux pas douter, mais cette rencontre-là est un peu une espèce de sommet qui a lieu au Brésil, dans un coin complètement perdu, à la Croix des Âmes, où s'était exilé Bernanos. Et c'est un sommet à la fois littéraire. Curieusement, si vous relisez ce que j'ai fait pour l'occasion, en parallèle des livres comme Sous le soleil de Satan et des nouvelles de Zweig, vous serez surpris de... Alors non pas, il n'y a pas une communauté de style, hein, mais d'une sorte de point commun, d'adéquation entre la mystique en moins pour Zweig, évidemment, le Dieu en moins pour Zweig, mais cette psychologie... Curieusement, on ne lit plus Bernanos. Beaucoup moins, en tout cas. Mais il y a une façon d'appréhender la psychologie des femmes, notamment, qui est assez similaire. Ce qui est intéressant dans cette rencontre-là, c'est qu'elle a lieu entre un homme qui a fui le nazisme, parce que juif, et un homme qui a été longtemps...
antisémite.
Violemment antisémite. Mmh. Et qui a... changer de camp et qui, loin d'avoir sombré qui après la guerre d'Espagne, enfin, il y aura un roman à écrire sur Bernanos, il y a un très beau livre de Sébastien Lapac sur Bernanos, et qui après la guerre d'Espagne, alors qu'on aurait pu penser qu'il partirait derrière les troupes de Franco, a complètement changé et est devenu un des soutiens extrêmement actifs de Gaulle. Et il y a là quelque chose qui était extrêmement difficile à appréhender pour moi, parce que c'est une rencontre qui évidemment a existé, dont on a beaucoup de témoignages, et qui est la rencontre entre un homme mystique, plein de colère, plein de force, plein de violence, qui est Bernanos, et un homme totalement anéanti, parce que cela se passe à quelques semaines de la fin de ses jours. Et cette rencontre-là était à la fois... moi, je repoussais l'échéance. Je me disais, tiens, je vais écrire cette rencontre. Le livre est divisé en 6 mois. Je vais écrire cette rencontre quand j'aurai fini novembre, quand j'aurai fini décembre. Et j'ai fini le livre. Et après, je me suis dit, je vais me consacrer à cette rencontre. Parce que, en effet, c'est faire. Donc, Zweig ne parle jamais. Mais Bernanos parle. Et alors, votre frère me le dira comme vous, peut-être. En effet, des spécialistes, des gens qui sont Buisson, Figaro Magazine, des gens qui connaissent très bien Bernanos, ont trouvé ça juste. Et moi, j'avais très, très peur parce que c'est un chapitre très important du livre. Pas tant, finalement, parce que c'est Bernanos et Zweig, mais parce que c'est la rencontre entre deux êtres que tout oppose, que tout sépare, et qui se voit dans une terre perdue, et que c'est éminemment romanesque. Et en plus, c'est Bernanos et Stefan Zweig. Donc, c'était le comble de l'ambition d'écrire ce chapitre-là. Et après, c'était un véritable bonheur parce que, une fois que j'avais trouvé la musique des mots de Bernanos, après cela coulait comme j'avais l'impression, après, encore une fois, c'est la lecture qui seule peut dire si j'avais raison ou pas, comme coulaient les pensées de Zweig ou les paroles de Lotte.
Bien.
Très bien.
On va peut-être s'arrêter là. Merci, Laurent.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu. Merci.